Un grand merci, Laetitia, pour cette lecture. Bonjour à tout le monde de ma part. Je vois quelques personnes aussi de visite, quelques membres de la famille aussi en visite. Et j'espère que nous pouvons vous saluer un peu plus tard ici à l'extérieur, après avoir d'abord fait votre passage de par la librairie. Et en parlant de la librairie, j'ajoute aussi que ce livre ne s'y trouve pas. Encore, on l'a eu dans le passé, on peut l'avoir dans le futur. Être membre d'une église locale, c'est assez similaire à l'autre, redécouvrir l'église locale dont parlait Benjamin. Mais pour ce qui est la dernière partie du texte que nous allons traiter aujourd'hui, la partie sur les clés du royaume, le pouvoir des clés, on dit en ce qui concerne Pierre et l'église, j'ai trouvé ça assez utile. Donc si ce que je vous dis un peu plus tard ne vous satisfait pas suffisamment, alors je vous renvoie vers ce livre pour aller creuser cela un peu plus. Parce que bien entendu, vous comprenez, nous ne pouvons pas mentionner tous les détails un dimanche matin d'un texte, mais s'il y a des détails où vous vous dites, mais ça, je dois creuser encore, tant mieux, ça nous donne soif d'aller découvrir plus de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Alors, je vais vous demander de prier avec moi avant d'aller plus loin. Gardez ça toujours sous les yeux, c'est utile. Matthieu 16, nous essayons dans cette église, nous ne le faisons pas parfaitement, mais nous essayons de prêcher la parole, pas prêcher ce qui nous vient à l'esprit en tant que prédicateur. Et donc, c'est à vous de vous-même songer un peu cette parole pour pouvoir voir si ce qui est dit est juste ou pas, pour pouvoir par la suite agir en conséquence. Je vois qu'il y a un danger parfois d'avoir l'école de dimanche juste envoyée, juste au moment où il y a la lecture, parce que tout le monde était parti lorsqu'on a lu. Et donc, les amis, si vous êtes parents, vous avez déposé votre enfant pendant la lecture, alors ce soir, fais le nécessaire, relis le texte, pour que vous puissiez être convaincus que oui, ce qui a été dit, c'est bien ce que la parole dit. Donc voilà, à nous de réfléchir si on peut trouver un autre moyen pour que les parents soient de retour à temps pour écouter la lecture de la parole. Je vous invite, chers amis, à prier, et puis on y va ensemble. Merci Seigneur que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Merci que nous sommes face donc aujourd'hui, comme chaque dimanche, hein, l'éternité, en prenant en compte ce que tu nous dis dans ta parole. Et nous te prions donc que tu sois parmi nous, que tu éveilles nos esprits, que tu ouvres nos yeux pour contempler ta gloire. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est le jour où la partie de l'année, me semble-t-il, où on commence à avoir des foires. Il y en a un, je pense, en dessous de là où on habite, au Dérium, ou qui est sur le point de commencer. Ça m'a fait penser aussi à la foire du Midi. Est-ce que vous êtes habitant à Bruxelles et vous n'avez jamais fait la foire du Midi? Il y a une foule de personnes. C'est assez agréable. Tu peux faire différentes choses pour votre divertissement. On passe, lorsque nous sommes à la fois, par différents stands. On est là pour être diverti d'une certaine manière. Parfois, c'est un jeu, parfois, c'est un truc à faire, tirer des pelés sur des canards flottants. C'est peut-être ça ce que vous aimez faire. Parfois, c'est un ménage, parfois, quelque chose à manger. C'est sympa, il y a différentes choses à faire. Mais nous sommes là lorsque nous passons à la foire pour être divertis. Nous sommes des clients à ce moment-là et les autres nous vendent leurs marchandises. Alors, notre premier point ce matin, vous allez voir cela aussi dans le livret si vous voulez suivre le plan, c'est lequel? C'est veiller, car toute religion ne cherche pas le vrai Dieu. Veiller, car toute religion ne cherche pas le vrai Dieu. On voit cela au verset 6, lorsque Jésus parle à ses disciples, veillez à vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Nous voyons cela aussi au verset 11, gardez-vous du levain des pharisiens et du sadducéen. Mais qu'est-ce que donc le levain des pharisiens et des sadducéens ? Verset 1. Ils cherchent à mettre Jésus à l'épreuve. Comment ? Ils lui demandent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus les appelle, verset 4, une génération mauvaise et adultère, car ils recherchent un signe. J'imagine, certains d'entre nous réagiront à ceci en se demandant, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette demande-là ? Pour un signe, n'est-ce pas légitime de demander un signe ? Après tout, Jésus ne cherche-t-il pas des disciples ? N'y a-t-il rien de mieux que de faire quelques signes comme preuve de son identité ? Et la réponse à ces questions est non. Car nous ne sommes pas, selon Jésus, à la foire. Nous qui jouons le rôle de client, qui soumet sa marchandise religieuse devant nous, et nous, par la suite, nous avons le loisir de juger si nous daignons ou pas de croire à ces signes. Dans un tel cas de figure, c'est les pharisiens et les sadducéens, ici, qui estiment être bien placés, eux, pour accorder le cachet de l'homme de Dieu authentique à Jésus. Mais Jésus ne permet pas cela. Non, c'est mal barré, cette tentative de mettre Jésus à l'épreuve. De se croire être client et Jésus le marchand. Jésus, d'ailleurs, se moque d'eux d'une certaine façon dans les versets 2 et 3. Vous voyez ça ? Vous êtes capable de regarder le ciel pour faire des prévisions de la météo ? Ciel rouge le soir, il fera beau. Rouge sombre le matin, l'orage qui arrive, oui, on peut toujours faire ça. Vous savez discerner l'aspect du ciel, il dit, mais vous ne pouvez pas discerner les temps. Quel temps ? Le temps de la venue de Jésus, de la venue du royaume des cieux, le royaume de Jésus. Quelle est la preuve qu'il n'arrive pas à discerner les signes, le temps ? La preuve, c'est qu'il demande un signe. Parce que Jésus vient de donner dans le chapitre 14 à manger pour 5 000 personnes, avec les enfants, les épouses, les femmes, probablement 15 000 personnes. Il vient de guérir des malades, de chasser des démons, de marcher sur les eaux. Des signes, chers amis, il y en a. Ce n'est pas les signes qui sont la source de la foi, il faut comprendre cela. Nous verrons cela un peu plus tard aussi. Mais que s'il y a une foi authentique en Jésus-Christ, alors nous comprendrons les signes. Ce qui reste pour les pharisiens et les sadducéens, dit Jésus, c'est uniquement le signe de Jonas. Jésus, quelques chapitres plus tôt, au chapitre 12, il a déjà évoqué ce signe-là. Tout comme Jonas a été 3 jours dans le ventre du grand poisson, de même Jésus lors de sa mort et ensuite sa résurrection, pour 3 jours, il aussi va faire de même. Les hommes de Ninive, si vous connaissez un peu l'histoire de Jonas, se sont tournés vers Dieu suite au message de ce Jonas. Et c'est eux, disait Jésus au chapitre 12, qui jugeront ceux qui rejettent la signification d'un signe encore plus grand que ce signe de Jonas, Jésus, mort et ressuscité. Ils n'auront que ce signe-là. Cela signifie qu'ils seront jugés parce qu'ils ont rejeté ce salut qui vient de Christ, celui qui est plus grand que Jonas. Voilà pourquoi donc il faut veiller, dit Jésus, à ne pas tomber dans ce genre de religion dont les pharisiens et les sadducéens font preuve. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une religion mauvaise, avec M majuscule. Si les pharisiens étaient parmi nous ce matin, on serait, comme je le suis avec vous tous, bien entendu, impressionné. Parce que les pharisiens, qu'on n'oublie pas, étaient sérieux par rapport à leur foi, respectueux de la part de leur prochain. Ils avaient une bonne morale, ils étaient là avec leur Bible ouverte. On aimerait, on dit souvent que nos filles se marient à de telles personnes. Ce sont des personnes de confiance. Mais ça m'a frappé aussi en lisant cette semaine le chapitre 15 qui précède notre chapitre, que les disciples, et si vous avez ça, vous pouvez voir cela, les disciples, eux aussi, les disciples de Jésus, avaient du respect pour des pharisiens, les sadducéens. Ce sont des repères religieux en Israël de l'époque. Verset 12 du chapitre 15, ils disent à Jésus, les disciples, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles ?» Jésus venait d'accuser les pharisiens d'honorer Dieu de la lèvre, mais leur cœur était éloigné de lui. Et c'est comme si les pharisiens disent, « Mais attends, Jésus, tu t'as froissé un peu les pharisiens, tu sais ça, tu te rends compte ?» Tu viens de faire ça aux pharisiens. C'est peut-être un peu contre-productif, non, quand même. Ce sont des gens honnêtes. Comment Jésus répond-il au chapitre 15 toujours? Il répond, verset 13, « Toute plante qui n'est pas plantée par mon Père céleste sera déracinée. » Ce n'est pas eux, les pharisiens, les sadducéens, qui déterminent la vraie foi. C'est ça ce que Jésus dit à ses disciples. C'est Jésus et son Père qui déterminent la vraie foi. Ne pas être en train de discerner ce que Jésus est en train de faire, c'est d'être alors dans le camp des aveugles, dans le verset suivant, le verset 14 du chapitre 15. Ils vont à leur perte. Peu importe, voyez-vous, le cachet religieux respecté qu'il porte de cette époque-là. Il rejette Jésus. Il refuse de voir la portée des signes que Jésus a effectués depuis son entrée en scène. Il cherche, si vous voulez, à protéger à tout prix la propre autorité religieuse. Ils sont par conséquent menacés par Jésus. Ils se disent, quelle ironie, être ceux qui attendent le Messie. Mais le vrai Messie vient et ils le rejettent. Alors Jésus dit de veiller par rapport à ce genre de levain. Et ce levain continue à être présent aujourd'hui, vous le savez. Le cachet religieux reste un repère dans la société occidentale, pour certains d'entre nous en tout cas. De voir des hommes religieux avec des habits impressionnants, dans des bâtiments impressionnants, avec des cérémonies impressionnantes. Sûrement, tout ce sérieux religieux compte pour quelque chose, on nous dit. Mais toute religion ne cherche pas forcément le vrai Dieu. Il faut comprendre cela. Car souvent, derrière la religion, il y a un rejet de Jésus-Christ, un mépris pour certains éléments de ce qu'il dit dans sa parole. Et alors, si c'est le cas, nous faisons preuve d'un mauvais levain, que nous soyons juifs, musulmans, catholiques, protestants libéraux. Dans chaque système que je viens de citer, ces quatre-là, c'est la parole de leur système, la Torah, le Coran, la tradition du magistère de l'Église, la raison humaine qui porte autorité sur la personne de Jésus. Jésus est donc rejetés aujourd'hui par des religions comme imposteurs par des juifs. Il est réduit à un simple prophète par des musulmans. Où ce qu'il dit est réinterprété selon l'autorité de la tradition, selon le catholicisme formel, ou selon l'autorité du raisonnement humain, si nous sommes protestants libéraux. Vous voyez bien que parfois, ces personnes sont sincères. La sincérité peut cacher un cœur qui ne cherche pas à se soumettre à Jésus-Christ. Un cœur qui défend ses intérêts religieux plutôt que d'accueillir le Christ et de se soumettre à ce qu'il dit. Sans doute aujourd'hui, vous comme moi, vous remarquez à quel point c'est difficile de ne pas devoir être forcé de par tout ce que nous voyons autour de nous, de célébrer diverses identités sexuelles lors des activités LGBTQ+. La pression grandissante sur l'Église d'affirmer la bonté de toute expression sexuelle est bien présente de nos jours. L'Église devait défendre avec grâce, compassion, une vision de l'épanouissement humain qui ne peut pas se trouver de par nos ressentis vacillants du moment, mais qui se trouve dans l'identité objective que nous recevons de la part d'un Dieu créateur. Mais l'Église qui se plie à la volonté actuelle de notre société sur cette question, qui ignore donc la parole de Jésus-Christ, c'est une Église qui fait preuve du même levain dont parlait Jésus ici. Parce que c'est Jésus-Christ jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'il soit contre ce que nous pensons être ce qu'il faut. Et Jésus, jusqu'à un certain point, c'est des pharisiens, des sadducéens. C'est le mauvais levain dont parle Jésus. Et ce qui est évident dans le paragraphe suivant, verset 5 du chapitre 16, là, ici, jusqu'au verset 12, c'est que ce même levain n'est pas loin non plus des disciples eux-mêmes. Jean de peu de foi, Jésus les appelle au verset 8. Car Jésus leur parle du levain des pharisiens et des sadducéens, et eux, ils pensent que Jésus est en train de parler du pain. Mais non! Vous ne vous rappelez pas des 5 pains, des 5 000 et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les 7 pains, des 4 000 et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. Comment, verset 11, pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je veux parler? Vous voyez, ils sont très proches à ce moment-là, les disciples, des pharisiens eux-mêmes, car eux non plus, ils n'ont pas compris les signes. Mais cette intervention de Jésus les fait comprendre. Verset 12, « Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et sadducéens. » Donc, premier point, chers amis, veillez, car toute religion ne cherche pas le vrai Dieu. Mais deuxièmement, soyez heureux, car confessez Christ, fait preuve de la révélation divine. La vraie religion nous mène dans une toute autre direction. Car au verset 13, après être arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus se tourne vers ses disciples et il leur demande, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et oui, c'est un moment clé dans l'évangile de Matthieu. Jusque-là, les évangiles ont donné quelques indices, oui, que les disciples croyaient que Jésus était le Christ, le Messie, loin de Dieu, le roi désigné par Dieu pour régner, qui selon l'Ancien Testament devait régner pour toujours. Jésus a parlé de son règne, déjà dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 14, les disciples ont déjà confessé comme étant le Fils de Dieu. Mais ici, la désignation qu'il est le Christ, celui qui devait venir, est pour la première fois sur leurs lèvres. Bien sûr, la portée complète de ce que cela signifie les échappera encore jusqu'à la résurrection. Mais c'est tout de même un marqueur important. Le Messie, le Christ, il commence à appeler un peuple autour de lui qui confesse son identité. Les chefs de l'ancien peuple de Dieu, d'Israël, les pharisiens, les sadducéens, rejettent Jésus. Mais certains se tournent vers lui. Certains d'un arrière-plan juif de l'ancien peuple, certains d'un arrière-plan non-juif. Nous avons vu ça la semaine dernière avec la femme qui, elle, est guérie par Jésus. Et qu'est-ce qui définit ce nouveau peuple? Verset 17, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » La chair et le sang, c'est ce qui relève de l'homme, de notre humanité. Et Jésus affirme que cette déclaration de Pierre n'a pas l'homme comme source ultime. Non, c'est son Père qui est dans les cieux qui l'a révélé à Pierre. Pierre, si vous voulez, est devenu quelqu'un qui, selon Ésaïe, que Jésus a déjà cité au chapitre 13, quelqu'un qui voit, qui entend, tandis que d'autres en Israël, tout en voyant, eux, ils ne voient pas. Tout en entendant, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Le cœur est endurci. Mais ceux qui voient, ceux qui comprennent, font preuve d'une illumination grâce à la révélation de Dieu. Une révélation qui a lieu à travers les actes, les œuvres, les paroles, la personne de Jésus-Christ. Répondre donc à Jésus avec foi, cela fait preuve de la grâce de Dieu dans notre vie. Comme le dit plus tard l'apôtre Paul, ce n'est que par l'Esprit de Dieu que quelqu'un puisse dire que Jésus est Seigneur. Cette nouvelle communauté se construit autour d'une réponse par la foi à la révélation divine. Et cette révélation vient de Jésus, car qui est Jésus? Le Fils de Dieu, la représentation parfaite de Dieu le Père, celui qui a l'autorité de Dieu, celui qui révèle le Père, celui qui est Dieu. Et que dit Jésus à Pierre par rapport à ça? Soyez heureux, si c'est votre cas. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Être chrétien, donc, c'est d'être quelqu'un en qui le Père a œuvré pour que nous nous voyions. Être chrétien n'est pas simplement donc une étiquette religieuse grâce à une appartenance familiale. Ce n'est pas une case à cocher sur un formulaire. Non, c'est plus. C'est un privilège d'appartenir, d'être membre d'une équipe. Alors imaginons pour un moment que la Belgique offrait une place gratuite en tant que membre de l'équipage pour une expédition fusée de la NASA, vers la station spatiale internationale. Et vous êtes sélectionné, même si vous n'avez aucun mérite aucune expérience pour y être. Ils disent, voilà, on veut donner une place gratuite à quelqu'un de normal. Alors, le jour du départ arrive et vous êtes là avec les autres membres de l'équipe. Et vous êtes comment à ce moment-là, point de vue de vos émotions? Indifférent? C'est une courbée pour vous d'y être, pour y aller? C'est un peu grincheux parce que vous n'avez pas bien dormi la veille? Non, non, vous faites partie des privilégiés sélectionnés pour un exploit extraterrestre en quelque sorte. Donc, être présent à l'Église de Jésus-Christ, confesser Jésus-Christ comme Fils de Dieu, mais le dimanche matin un peu grincheux, indifférent, comme si c'est une courbée d'y être, comme si c'est Dieu qui devait être plutôt heureux que vous soyez là. Vous lui rendez un service, bon, merci, bravo. Non, une telle attitude, chers amis, ça fait mauvais signe. Il y a tellement de gens, vous ne voyez pas cela, qui ne voient pas que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui tombent, eux, sous le jugement du signe de Jonas. Mais figure-toi que oui, toi, tu vois, heureux. Sois-tu. Alors soyons heureux. Confessez Christ. Fais preuve de la révélation divine. Et notre dernier point, c'est celui-ci. Humiliez-vous, car le plan de Dieu tourne autour de son Église. Humiliez-vous, car le plan de Dieu tourne autour de son Église. Comment Jésus continue, verset 18 ? Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a bien entendu ce jeu de mots entre Pierre, la personne, et Pierre, sur cette pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, Jésus construira son Église. Le Christ est venu former un peuple. Un peuple qui lui appartient par la foi, qui est composé de toutes les nations qui viennent à ce Christ par la foi. Et ce peuple, c'est un rassemblement de personnes. Et ça s'intitule l'Église. Le mot « Église » signifie cela, rassemblement, une assemblée. Et cette Église, ce rassemblement, soutenu par le Christ, tiendra le coup, quoi qu'il advienne, vous voyez ça. Ce n'est pas une promesse pour chaque Église locale, comme si on dirait que l'Église de Woluwe sera encore là jusqu'au retour de Christ. Peut-être, mais peut-être pas. Ce n'est pas une promesse qui se tient à une église locale particulière, mais l'église de Christ, l'ensemble de ce peuple rassemblé par le Christ, cette église-là tiendra jusqu'au retour de Jésus, bien que parfois persécutée, marginalisée, méprisée. Après tout, c'est son Église, il dit. Il est le maître souverain, nous avons chanté. Les temps sont en sa main. C'est lui qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Nous pouvons être confiants en lui. Et d'ici là, Jésus a accordé à l'Église le pouvoir des clés. Les clés de son royaume. Les clés, comme vous pouvez comprendre, ce sont les moyens par lesquels ce peuple, ce rassemblement, continue à se gérer, à grandir. Les clés permettent de contrôler l'entrée et la sortie. Alors, imaginons maintenant qu'on demande à Cor, celui qui nous accueille dans ces locaux de l'école, de descendre et fermer les portes, l'un et l'un. Bon, en fait, quasi personne ne sait qu'il y a une sortie par là, mais normalement, vous pouvez aussi sortir par là si vous le souhaitez. Il ferme les portes avec ses clés. Avoir donc les clés, c'est d'avoir quoi? Le pouvoir d'ouvrir les portes pour laisser entrer quelqu'un dans cette assemblée et pour mettre quelqu'un dehors. C'est ça le pouvoir des clés. Le fait donc de lier et délier, comme nous avons lu, c'est le fait d'avoir le pouvoir sur cette question-là, qui entre, qui sort. Tu comme ailleurs dans le Nouveau Testament, Dieu accorde à l'État le pouvoir du glaive, de l'épée, pas à l'Église. L'Église ne peut jamais porter l'épée pour faire avancer le royaume de Christ, mais l'État est permis par Dieu d'exercer ce pouvoir-là. Mais Dieu accorde le pouvoir des clés à l'Église. Juste pour nous aider, nous allons voir un exemple de cela au chapitre 18. Donc, si vous avez le texte du chapitre 18 sous les yeux, tant mieux, sinon écoutez. Verset 15, que dit Jésus au chapitre 18, verset 15? Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. Donc, premier tour, lorsqu'il y a un problème, lorsque quelqu'un ne fait pas preuve d'une façon de vivre au sein de notre Église qui est conforme pour des citoyens de ce royaume, c'est d'aller voir la personne individuellement. Deuxième tour, c'est d'en parler avec deux ou trois. Troisième tour, si la personne refuse toujours, c'est d'en parler à l'Église. Deuxième mention du mot « Église » ici dans l'Évangile de Matthieu. Et que faire s'ils n'écoutent toujours pas? Alors le dernier tour, c'est qu'ils soient traités comme un non-juif et un collecteur des taxes, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus considérés comme appartenant à ce peuple, membre de ce royaume. Et que dit Jésus ensuite, verset 18? « Amen, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Vous voyez, c'est l'Église, vous, les disciples de Jésus, qui autorise cette dernière étape d'expulser quelqu'un, d'excommunier quelqu'un. Cela aide, je pense, avec cette question faux débattue maintenant quand on revient au chapitre 16. Quand Jésus dit à Pierre que c'est sur cette pierre que je construirai mon église, mais quelle pierre? La personne de Pierre, Simon, ou la confession de Pierre? Que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, si nous sommes protestants, nous préférons que ce soit plutôt sur la confession de Pierre que Jésus est le Christ. Si nous sommes plutôt catholiques, nous préférons la première possibilité, que c'est Pierre, la personne, Simon-Pierre, dont il parle, car cela semble renforcer la primauté de Pierre. Et du coup, selon certains, l'office de la papauté encore aujourd'hui. Alors, il me semble assez évident que Jésus fait exprès de faire un lien entre Pierre et sa confession. Et de vouloir à tout prix réduire Pierre à un homme parmi les autres n'est pas juste. Pierre, il a une place toute particulière. Il était... Si nous lisons le livre des Actes, le premier pilier de l'Église chrétienne à Jérusalem. Mais rien n'est mentionné au sujet du successeur de Pierre, ici par Jésus, ni de ses déclarations infaillibles ou autres. Non, Selon le Nouveau Testament, à un moment donné, l'apôtre Paul a dû confronter Pierre pour une erreur commise de sa part. Et à aucun moment dans le livre des Actes a-t-il, Pierre, une autorité au-dessus des apôtres. Non, c'est sur base des apôtres, dans leur ensemble, que Jésus a établi son Église. C'est eux les témoins oculaires de tout ce que Jésus a fait et a enseigné, finalement, lors de sa résurrection même. Ils étaient témoins. Eux, ils mettaient sur papier, dans la Bible que nous avons encore sous les yeux, ce dépôt qui découle de leur confession collective que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu très haut. L'Église est construite donc sur le témoignage des apôtres, dont Pierre, oui, avait le rôle primordial au début. Et l'Église continue à avoir une autorité de reconnaître l'authenticité de la confession de l'une ou l'autre personne, sur base des critères que Jésus leur avait laissés. Matthieu 18, il ne dit pas que toi, tu lirais, comme il a dit au chapitre 16, mais il dit tout ce que vous les disciples, lirez, et tout ce que vous délirez sera délié. À la fin de l'évangile de Matthieu, c'est aux disciples que Jésus donne le commandement de faire des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, résumé, Jésus accorde à son Église une grande autorité. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas une autorité totale, bien entendu, sur la vie de quelqu'un. Jésus ne lance pas son Église comme un secte qui contrôle tout. Mais lorsqu'il s'agit de notre identification en tant que disciple de Jésus-Christ, lorsqu'il s'agit de notre comportement en tant qu'ambassadeur pour Jésus, cette tâche, il accorde à l'Église la responsabilité d'exercer le pouvoir des clés. Et cela signifie l'Église locale. Car selon chapitre 18, comment voulez-vous ressembler l'Église universelle pour l'exercice de la discipline? Fais-le connaître à l'Église. C'est à toute l'Église depuis le premier siècle. C'est impossible. Non, l'Église, c'est quoi? C'est le rassemblement local des croyants. Et cela, chers amis, nous met au défi lorsqu'on arrive à nous. Car en Occident, nous continuons à avoir tendance à retenir notre indépendance jusqu'au bout. Au cœur, pour beaucoup de chrétiens, il y a moi et il y a mon Dieu. Ensuite, si tout va bien, il y a moi et mon Église. Mais l'Église est secondaire dans la pensée de la plupart d'entre nous. Je ne dis pas ça parce que je suis pasteur d'une église. Je dis ça parce que je suis un homme de l'Occident, tout comme vous l'êtes également. Je pense que Covid a renforcé cela pour certains, car confinés à la maison, on pouvait facilement arriver à la conclusion que l'église, le rassemblement, n'était pas forcément quelque chose de nécessaire. Mais l'église conçue ainsi, c'est un peu comme un club, n'est-ce pas? Un club de sport, un club où je joue aux échecs ou autre. C'est volontaire, c'est bien, ça m'apporte quelque chose, mais ce n'est pas grave. Pour moi, ultimement, si j'y suis ou si je n'y suis pas, c'est une erreur. Bien sûr, personne n'est forcé d'entrer dans l'église. J'espère que ce n'était pas votre cas aujourd'hui. J'espère qu'on ouvrira les portes et vous pouvez sortir quand vous voulez. C'est volontaire dans ce sens-là, bien entendu. Mais du point de vue de Jésus, du croyant en Jésus, l'Église, ce n'est pas volontaire. Nous faisons partie de ce peuple par la foi. Ce n'est pas un club que je peux parfois bénéficier, parfois laisser de côté. Non, c'est l'Église, nous avons vu, qui dicte sur cette terre les choses les plus importantes pour chacun d'entre nous. Ce n'est que à elle, l'Église, que Jésus a donné l'autorité de reconnaître notre confession de foi, de nous, chacun d'entre nous individuellement, de nous mettre en garde aussi si notre vie ne s'accorde pas à cette confession de foi, de nous lier ou nous délier. Alors imaginons maintenant juste une petite illustration de la famille. La famille rassemblée lors de l'adoption d'un enfant. Vous êtes adopté dans une famille. Ou la famille rassemblée lors des difficultés où les parents prennent la décision de renvoyer quelqu'un dans les cas extrêmes. Où en êtes-vous à ce moment-là? Vous êtes concerné ou vous vous dites, peu importe ce qu'ils font. Si la famille décide de t'adopter, t'es concerné. Ça change ta vie. Si la famille décide de vous renvoyer, t'es concerné par cela. Parce que ça change dramatiquement votre vie. Mais de même, alors, pour l'Église, chers amis, d'une échelle encore plus grande que la famille. Qui baptise? Qui met quelqu'un sous discipline dans la vie du croyant? C'est toi? Ah, ben, moi, je me fais baptiser. Je prends la piscine, je me fais baptiser. C'est bon, non? C'est moi et mon Dieu, et c'est ça ce qui compte. D'ailleurs, j'ai une fois connu un pasteur qui a fait un peu le baptême pour lui-même dans ces circonstances-là. Et ça m'a toujours touché. Parce que c'est tellement irrégulier. Parce que ça démontre une indépendance par rapport à l'Église qui n'est pas saine. Et qui prend la décision de se dire ce comportement, ça ne va pas? C'est toi? C'est toi le roi de ta foi à tous égards? Aucune autre personne puisse te dire, vous savez, ça ne va pas. Vous savez, de continuer à faire ça, vous courez le danger de rejeter Jésus-Christ. Non, c'est à l'Église que Dieu donne la possibilité de confirmer votre adoption, vous accueillir formellement dans l'Église, le peuple de Dieu, et aussi parfois de vous avertir que vous courez le danger de ne pas rester dans ce peuple de Dieu. Alors ça met en lumière, n'est-ce pas, le problème de fréquenter l'Église régulièrement, mais de ne pas être baptisé en tant que disciple. Parce qu'à ce moment-là, vous gardez pour vous-même l'autorité d'Église. C'est moi qui décide si je suis disciple ou pas. Mais Jésus a donné l'autorité à l'Église. Donc faites-vous baptiser, c'est de vous soumettre à Jésus-Christ par rapport au pouvoir qu'il a accordé à l'Église. D'où vient le problème de ne pas fréquenter une assemblée de façon régulière pour que l'Église puisse exercer cette discipline commune lorsqu'il est nécessaire. Mais si je ne viens que ponctuellement, comment voulez-vous que le peuple de Dieu dans son ensemble arrive à discerner ce que c'est notre profession de foi? Humiliez-vous dans le sens où nous nous soumettons à l'autorité de Jésus-Christ exprimée dans son Église, car le plan de Dieu tourne autour de son Église. Nous chantons, nous avons chanté, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Soumettons-nous donc déjà à lui aujourd'hui. Arrêtez d'être léger par rapport à l'Église de Jésus-Christ, à son peuple, de se croire en mesure d'avoir une relation avec Dieu en dehors de son peuple. Non, c'est à l'Église que Jésus a remis les clés. Oui, 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 l'Église, elle n'est pas parfaite. Cette Église, elle n'est pas parfaite, elle fait des erreurs. Tout comme les premiers ministres et des présidents, vous l'avez remarqué, font aussi parfois des erreurs. Mais il continue à avoir une autorité, bien qu'il soit faillible. Tout comme l'Église continue à exercer son autorité, confiée par Jésus-Christ, bien que, oui, faillible. Parfois, il faut renvoyer aussi un pasteur, un ancien, si le comportement n'est pas digne de pasteur ou d'ancien. Mais qui prend la décision de faire cela? L'Église. Rassemblés dans son ensemble. Alors cela implique, et on termine avec ceci, chers amis, une estime pour le peuple de Dieu. Jésus construit son peuple. D'abord de par Pierre, ensuite les apôtres, ensuite les autres disciples, et ainsi de suite jusqu'à nous. Nous devons avoir de l'estime pour le peuple de Dieu. Nous devons fréquenter donc le rassemblement local du peuple de Dieu de façon régulière. Nous devons prier pour l'Église, parce que l'Église a un pouvoir immense aux yeux de Dieu. Il consacre l'autorité de confier qui est dedans et qui est dehors. Et cette décision-là compte pour l'éternité, chers amis. Ce n'est pas une petite chose de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Donc je vous invite, chers amis, à prier avec moi que le Seigneur nous aide à reconnaître la grandeur de la personne de Jésus et donc de l'autorité qu'il accorde à son Église. Prions ensemble. Seigneur, nous avons vu pas mal de choses ensemble. Nous avons vu ce que c'est le levain des pharisiens et des sadducéens, ceux qui cherchent à contrôler Jésus, à imposer leur religion au-dessus de Jésus, au lieu de transformer la compréhension de ce que c'est la religion à la lumière de Jésus. Donne-nous d'être un peuple donc, qui écoute le Seigneur Jésus dans sa parole, mais un peuple aussi qui reconnaisse à quel point c'est toi qui as construit ton Église, à quel point le fait de se dire chrétien, membre de ce peuple, fait preuve de l'œuvre de ta grâce dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, de ne pas sous-estimer donc le privilège que nous avons de t'appartenir, de te connaître, mais aussi la responsabilité que nous portons ensemble, le pouvoir des clés que tu as laissées à ton Église. Pardonne-nous pour nos erreurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes. Et donne-nous ensemble, en tant que ton peuple, à cheminer avec toi dans la reconnaissance et par la foi. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen.